bonjour à tous.
Les fascistes ont vu le seul et le plus grand des écrivains espagnols qui était allé avec eux, Miguel de Unamuno, mourir à Salamanque, destitué par eux, abandonné, désespéré et seul.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où cette semaine, la philosophie espagnole s'offre à nous dans ce qu'elle a de plus concret, de plus incarné, de plus imagé, mais aussi de plus paradoxal et contradictoire. Hier, c'est ainsi le héros fardé et grimé, mais d'autant plus authentique, de Balthazar Gracián que nous évoquions. Lundi, avant-hier, ce sont les passions et ingenium en chacun de nous qui nous font penser que nous faisaient découvrir les philosophes anthropologues du siècle d'or, Juan Luis Vives et Juan Arte. Mais aujourd'hui, c'est à la rencontre des paradoxes et contradictions d'un philosophe qui les assume à haute voix que nous allons, Miguel de Unamuno. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins clame elle aussi haut et fort sa passion des contradictions. Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marie Aubert, Marianne Chassor, Colomba Grossi, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger accompagné de Christine Diger et à la prise de son aujourd'hui d'Ophar Guéride. Savoir pour savoir, la vérité pour la vérité, c'est inhumain. Et si nous disons que la philosophie théorique se dirige vers la pratique, la vérité vers le bien, la science vers la morale, je dirais, et le bien, à quoi bon? Est-ce par hasard une fin en soi? Agis de façon que ton action puisse servir de règle à tous les hommes, nous dit Kant. Soit, et pourquoi? Il faut chercher un pourquoi. Dans ce point de départ, dans le véritable point de départ, la pratique et non le théorique de toute philosophie, il y a un pourquoi. Le philosophe s'occupe de philosophie pour quelque chose de plus que pour philosopher. Cherchez le pourquoi plus que le comment. Cherchez le pourquoi plus que le vers quoi. Cherchez le pourquoi, tel pourrait être le credo de ce philosophe de la génération de 98. Cette génération espagnole d'écrivains désenchantés de la fin du 19e siècle, tel pourrait être la foi de ce penseur qui n'a jamais voulu mettre fin à ce désenchantement, trouver ses solutions concrètes à l'inquiétude, comme on soigne un mal de dents ou des rhumatismes, mais l'entretenir à bon compte. Comme Don Quichotte s'entêtant à combattre des moulins à vent, redoublant de son absurdité lucide l'absurdité d'un monde qui se cherche un sens. Et ce philosophe qui s'entête à penser sans théorie, qui croit dans l'audace du désenchantement, qui cajole son intranquillité, qui philosophe pour quelque chose de plus que pour philosopher, c'est Miguel de Unamuno, que nous allons découvrir dès maintenant grâce à Colette Rabaté, maître de conférence HDR honoraire à l'Université François Rabelais de Tours. Bienvenue à vous. Et Jean-Claude Rabaté, professeur émérite à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, auteur avec Colette Rabaté d'une biographie de Miguel de Unamuno disponible uniquement en espagnol aux éditions Taurus. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Porque he vivido siempre de hacer, de vivir de la lengua. Y toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó.
Parmi toutes les tyrannies, celle qui m'est la plus odieuse est celle des idées.
Il n'y a pas de cratie que j'aborde davantage que l'idéocratie qui entraîne avec elle, comme sa fatale séquelle, d'autres idées aussi respectables ou aussi méprisables qu'elle. J'aborde toute étiquette. Même si une étiquette devait me convenir davantage, ce serait celle d'idéoclaste, de brise-idées. Comment veux-je les briser ? Comme les chaussures, en les faisant miennes et en les usant. Que les idées gouvernent le monde. Je ne crois en aucune autre idée pour promouvoir le progrès qu'en celle de l'idée homme. Parce que chaque homme aussi est idée, c'est-à-dire apparence et forme. Mais idée vivante, incarnée, apparence qui jouit, vit et souffre et qui, en fin de compte, s'évanouit dans la mort. Moi, en tant qu'homme, je suis une idée plus profonde que toutes celles que je loge dans mon cerveau. Et si je réussissais à leur donner ma tonalité propre, elles gagneraient à être passées par mon esprit. C'est un argent que je frappe et auquel, en le frappant, je prête mon crédit, petit ou grand, positif ou négatif. Vivre toutes les idées afin de m'enrichir moi-même en tant qu'idée avec elles, c'est ce à quoi j'aspire. Après avoir pressé leur suc, je crache hors de ma bouche leur pulpe. Je les épuise, puis c'en est fini avec elles. Je veux être leur maître, non leur esclave. Effectivement, ils sont leurs esclaves, ces hommes aux convictions bien ancrées, dépourvus du sens de la nuance et du nimbe qui enveloppe et unit les contraires. Tous les sectaires, tous les idéocrates sont leurs esclaves.
Colette Rabaté et Jean-Claude Rabaté, c'est un texte magnifique de Miguel de Unamuno qu'on vient d'entendre interprété par le comédien Jean-Louis Jacobin. C'est un texte intitulé « L'idéocratie » qui date de 1900, mais juste avant, c'est la voix même de Unamuno qu'on a entendue dans une archive unique qui date de 1931. Entre cette archive et ce texte, on entend cette même idée de lutte avec la langue, de lutte avec les idées. Est-ce qu'une bonne manière d'entrer dans la pensée de Miguel de Unamuno, c'est d'abord de dire que c'est une pensée qui se refuse, qui se désengage, qui est d'abord contre quelque chose?
Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup ont qualifié Unamuno d'agitateur d'esprit, et lui-même le pensait. C'est une personnalité, de toute façon, aux multiples facettes, qu'on connaît surtout en France sous l'aspect philosophique. Je dirais qu'en réalité, moins qu'un philosophe, c'est un essayiste, mais c'est aussi un linguiste, un romancier, un poète, un homme de théâtre et un infatigable épistolier, puisqu'il a écrit, pense-t-on, environ 10 000 lettres. Et c'est un homme qui est aussi journaliste et qui correspond justement à cette idée de l'intellectuel qu'on peut se faire à partir de la dernière partie, les dernières années du 19e siècle. Il a marqué vraiment la vie intellectuelle espagnole depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre civile, jusqu'en 1936. Et on peut parler d'engagement de Miguel de Unamuno, c'est un terme qui est complexe, aussi complexe que sa personnalité. Et il est vrai que si on se réfère à la définition du Robert, l'attitude de l'intellectuel, de l'artiste qui, prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à sa position de simple spectateur et met sa pensée ou son art au service d'une cause, on peut vraiment appliquer cette définition à Miguel de Unamuno, qui lui-même, et vous avez souligné cet aspect un peu iconoclaste, ce rejet du dogme quand il dit lui-même, et ce maniement des concepts. Il procède toujours par opposition et par jeu de mots. Il disait « Quand en finira-t-on avec cette opposition entre action et contemplation ? Quand comprendra-t-on enfin que l'action est contemplative et la contemplation est active ?» Il le dit dans « Comment fait un roman » en 1927.
Jean-Claude Rabaté, sur cette question de l'engagement paradoxal au nom d'un désengagement.
Oui, attendez, avant de répondre ou de tenter de répondre à cette question, j'aimerais, comme toujours, parce que je suis très positiviste, restituer les contextes.
Allez-y.
Pardon ?
Allez-y, je vous en prie.
Qu'avons-nous entendu ? Nous avons entendu un extrait remarquablement bien choisi. Vous avez parlé d'un texte magnifique d'Unamuno, mais tous les textes d'Unamuno sont magnifiques. Mais celui-ci est un extrait d'un essai, d'un essai. Unamuno lui dit lui-même, et Colette a raison d'insister là-dessus, « Je suis, par antonomasie, je suis, par définition, un essayiste. » Le problème d'Unamuno, c'est qu'il c'est un essayiste par digression métaphorique. Bon, je referme la parenthèse et la digression pour vous dire que le titre de cet essai, L'idéocratie, fait partie, avec deux autres titres, donc de Tres ensayos, trois essais, qui paraissent en 1900. 1900 n'est pas une date significative en Espagne. C'est Pierre Villard, aujourd'hui trop oublié à mon avis, grand historien, qui disait que en Espagne, le XXe siècle commence en 1898. Bon. 1900, ce sont des textes, comme d'autres, qui ne marquent pas, si vous voulez, véritablement cette année-là. Mais ce texte-là, l'idéocratie, avec un autre texte intitulé « La foi » et un autre texte au titre exclamatif « Adentro », à l'intérieur, rien que les titres, si vous voulez, sont significatifs d'un repli d'Unamuno sur lui-même. Il va s'explorer, il va tenter de mieux se connaître lui-même et en réalité ce sont des essais philosophiques qui succèdent à d'autres essais des années antérieures, 1898, qui étaient, disons, beaucoup plus engagés. Unamuno donc, commence donc un repli sur lui-même, un repli sur l'homme. Et mieux se connaître soi-même. Le danger de l'idéocratie, et me revenez, parce que là aussi, la citation est particulièrement bien choisie, comme dans d'autres essais, vous avez en germe la pensée de Miguel de Unamuno. Appliquée aux années 30, ça vous donne ce rejet qu'a Miguel de Unamuno à la fois du fascisme et à la fois du communisme. Ni les uns, avec un H, ni les autres. Donc, ce rejet de la politique de masse pour mieux agiter l'esprit, non pas de la masse, mais d'un seul homme. Autre passage que vous auriez pu éventuellement citer, c'est-à-dire que, et là, un enfant de quatrième peut comprendre, parce que notre but, si vous voulez, c'est de rendre Unamuno accessible. Pendant 40 années, il a été trop difficile d'accès. Les idées, c'est comme au Pays Basque, ce sport, la pelote basque. Et c'est la balle que l'on renvoie. On renvoie contre ce fronton des villages des Pays Basques. Et cette balle, cette idée vient s'écraser. Eh bien, Unamuno, quand il saisit une idée, il se transforme en joueur de pelote basque pour la fracasser jusqu'à ce que, il dit, la balle en elle-même éclate.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs à propos des idées. Hein. Après avoir pressé leur suc, je crache hors de ma bouche leur pulpe.
Haute métaphore remarquable.
Mais s'il est difficile d'accès Unamuno, ou du moins si on le connaît peu, en tout cas en France, c'est aussi parce qu'il est sans étiquette. C'est très difficile de le classer.
Absolument.
Il n'est pas véritablement un philosophe. Vous avez dit essayiste Jean-Claude Rabatté. Mais déjà, il faudrait peut-être tenter de déceler quels pourraient être les contours de sa pensée. Quel est l'homme duquel il parle dans ce texte, qu'il préfère aux idées, cette idée homme, dit-il.
Et vous n'en saurez pas plus. Vous n'en saurez pas plus. Parce que ce langage métaphorique, il veut pénétrer à l'intérieur de ce qu'il appelle l'alma, l'âme. Ça devait être le titre de ces essais que la littérature, que les histoires de la littérature ont rendu célèbres. En torno al castifismo, que Marcel Bataillon, prestigieux, le hispaniste, le prince des hispanistes, a traduit. Il a eu du courage à 23 ans, comme il le dit, d'essayer de franciser ces 5 essais de Miguel de Unamuno, à chaque fois, il a recours à la métaphore. Des métaphores, on l'entendra, je pense, tout à l'heure, remarquables. Le peuple, il ne donnera jamais de définition du peuple. En tout cas, le peuple vers lequel il se tourne, ce n'est pas le peuple ouvrier. C'est le peuple rural, c'est le peuple paysan, c'est le peuple de la Castille, qu'il connaît très bien. Mais il connaissait très bien également les mineurs de Bilbao. Il est né à Bilbao.
C'est ce qu'on va entendre maintenant, Jean-Claude et Colette Rabatté.
Pardon.
Les vagues de l'histoire, avec leur rumeur et leur écume qui reflètent le soleil, roulent sur une mer continue, profonde, beaucoup plus profonde que la cape qui ondule sur une mer silencieuse et au fond de laquelle jamais n'arrive le soleil. Tout ce que racontent chaque jour les journaux, l'histoire tout entière du moment présent historique, n'est que la surface de la mer, une surface qui se gèle et qui cristallise dans les livres et les registres. Une fois qu'elle est cristallisée, c'est une cape dure, aussi petite par rapport à la vie intra-historique que cette pauvre croûte terrestre sur laquelle nous vivons, en comparaison de l'immense foyer ardent qu'elle mène en son sein. Les journaux ne disent rien de la vie silencieuse des millions d'hommes sans histoire qui, à toute heure du jour et dans tous les pays du globe, se lèvent sur un ordre du soleil et vont à leur champ, afin de poursuivre l'obscur et silencieux labeur quotidien et éternel. Ce labeur qui, comme celui des madréporaires subocéaniques, jette les bases sur lesquelles s'élèvent les îles de l'histoire. Sur le silence auguste, disais-je, s'appuie et vit le son. Sur l'immense humanité silencieuse s'élèvent ceux qui mettent le tapage dans l'histoire. Cette vie intra-historique, silencieuse et continue comme le fond même de la mer, est la substance du progrès, la véritable tradition, la tradition éternelle, et non pas la tradition menteuse qu'on a coutume d'aller chercher dans le passé enterré dans des livres, dans des monuments et dans des pierres.
Mai vicino, e se da vicino dovere, grazie come hai bilatera e no.
Voilà une des métaphores dont vous parliez, Jean-Claude Rabaté. C'est un extrait qu'on a entendu interpréter par Jean-Louis Jacopin, un extrait de La Tradition éternelle, qui est un essai qui apparaît dans L'essence de l'Espagne, un essai qui date de 1895, donc toujours des Miguel de Unamuno. Et voilà une métaphore qu'il utilise, celle de la mer. Il y a d'un côté les vagues de la mer, cette histoire événementielle qu'on retient, qui s'écrit dans les journaux. Et puis il y a ce fond de la mer, ces millions de vies anonymes qui se lèvent tous les matins et où se trouve là la substance du progrès. C'est cette vie que Miguel de Unamuno appelle la vie intra-historique. On retrouve donc ce que vous disiez, cette idée non pas de procéder par idée, mais peut-être par un jeu d'écriture et par un jeu de métaphores. Colette Rabaté ?
Oui, l'emploi des métaphores d'ailleurs est permanent dans l'œuvre d'Unamuno et je crois qu'on pourrait la rapprocher rapidement de son œuvre de poète. Parce que on ne connaît pas bien aussi les poésies de Miguel de Unamuno, il y a vraiment des poésies magnifiques, qui sont aussi, et là je le rattacherai à l'engagement, des poésies de combat. Dans la dernière partie de sa vie, il y a une mise en cause de la dictature de Miguel Primo de Rivera, à partir de 1923, et la mise en cause de la monarchie. Et il y a vraiment des passages, des images magnifiques, mais aussi, un réquisitoire contre la monarchie. Donc il mêle encore une fois tous ces registres. C'est ce qui est difficile avec lui, c'est qu'il nous perd un peu. Mais bon, je pense que le passage qui a été lu est très clair et que même un Espagnol ou un Français d'El Monton, comme on dit en Espagne, courant, peut comprendre. Et il l'a d'ailleurs mis en application dans un de ses romans qui s'appelle « Paix dans la guerre ».
Et que veut-il dire avec ce texte, finalement ? Il veut nommer, en fait, ces vies anonymes ? Jean-Claude Rabaté ?
En fin de compte, Unamuno développe constamment un contre-discours, ce qui est caractéristique de l'intellectuel. Une petite parenthèse ou une petite digression, Unamuno est le premier, et pionnier, premier intellectuel moderne. Je développerai peut-être tout à l'heure ceci par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les médias. Hein. Ce terme d'intra-histoire, certains ont vu, étant donné, Unamuno est quelqu'un entre 20 ans et 30 ans qui a dévoré des lectures. Mais c'était un esprit européen. Donc il dominait bien 8-9 langues étrangères. Il donnait même des cours d'allemand à de jeunes Espagnols et à l'âge de 26 ans, il a traduit une œuvre de Sudermann qui était quand même une œuvre de théâtre de l'argot de Berlin en espagnol qu'il a publié dans un journal de Bilbao. Donc véritablement un esprit européen qui dominait plusieurs langues étrangères. Tout cela pour vous dire que, et c'est pour ça que la bibliographie autour d'Unamuno est gigantesque, gigantesque parce que dans l'intra-histoire, certains y ont vu des tas d'influences. Je citerai par exemple l'histoire interne d'Hegel, je citerai des pages de romans de Pérez Galdós. Mais Unamuno était génial dans la façon dont il avait de phagocyter des textes d'autrui. D'ailleurs, par Clarine, qui était un redoutable critique de l'époque, il a même été accusé de plagiat. Unamuno ne restituait pas toujours les
références,
et puis en plus les matériellement les indiquait par des guillemets. Mais si bien que ce qui est extrêmement intéressant, c'est de feuilleter sa bibliothèque à l'université de Salamanque, plutôt à la Casa Museo, qui est un véritable lieu magique, là où il a vécu dans cette Calle Libertadores à Salamanque, 6000 ouvrages, mais des milliers qui sont annotés, qui sont traduits partiellement. Et Unamuno a traduit les plus grands penseurs étrangers, parce qu'il a eu besoin de gagner sa vie. On n'a pas dit, c'est peut-être trop prosaïque, il avait une femme qui ne travaillait pas, il avait une sœur à la maison qui ne travaillait pas, il avait aussi 8 enfants à élever. Alors on dit Unamuno était radin. Unamuno, il avait surtout peur demain de l'avenir économique de cette famille, et ce, dans une lettre poignante qu'on aura peut-être le temps de vous lire tout à l'heure, dans la dernière lettre de sa vie, écrite en 1936, alors qu'il avait encore 3 enfants qui ne travaillaient pas. Je referme la parenthèse, parce que là, on s'éloigne un petit peu de ce concept de l'intra-histoire.
Pas vraiment, peut-être que c'est une manière de dire que Unamuno fait partie de cette intra-histoire, en fait, qu'il fait partie des millions d'hommes qui se lèvent.
Oui, mais intra-histoire, c'est un terme, un concept plutôt, qu'il va forger et qu'il va abandonner dès 1902. Là, on se situe en 1895. Il préfigure de façon lucide la fin d'un empire. Le soleil va se coucher définitivement sur l'empire de Charles Quint et de Philippe II. Il anticipe, c'est la fin, c'est la décadence d'une grande Espagne. Et il écrit. Il écrit contre quelqu'un. Mais contre qui ? Eh bien, il écrit, parce qu'il ne le dit pas, mais il écrit contre l'histoire officielle. L'histoire officielle telle qu'il l'entend dans les discours de Cánovas del Castillo. Mais où entend-il Cánovas del Castillo ? Quelques années auparavant, quand il est étudiant, il fréquente plus l'Ateneo de Madrid que l'Université centrale de Madrid. Il prend des notes. Et un jour, Cánovas del Castillo, dans un discours aussi célèbre que celui de Renan, un discours à la Nation, eh bien Cánovas del Castillo dit « on va renouer l'histoire de l'Espagne ». Et Cánovas del Castillo est le grand restaurateur. C'est lui qui remet les Bourbons sur le trône d'Espagne.
Et c'est à ça que s'oppose, c'est contre lui qu'il écrit.
Vous avez une phrase dans cet essai-là, qui Unamuno écrit, il ne s'agit pas de renouer avec l'histoire de l'Espagne, parce qu'il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a pas eu de rupture. Et il prend pour exemple ce peuple paysan, ce peuple de la Castille, ce peuple qui chaque matin se lève pour faire la trilla, le pâtage des blés. Et il a recours à cette image des océans qui préfigure aussi cette histoire-là, une histoire interne opposée à l'histoire externe, l'histoire des mentalités, plus tard développée dans l'histoire des annales par Fernand Braudel, par Lucien Febvre. Mais ce sont des pages, encore une fois, grandioses, si vous voulez, de ce passage de Entorno al Castifismo qui a posé problème. Il y a toute une correspondance de son traducteur, de Marcel Bataillon, à Unamuno, dans la mesure où il lui dit on ne peut pas traduire Entorno. Entorno, c'est une pensée mouvante autour du casticisme. Qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça veut dire un Français ? Rien. Donc, l'essence de l'Espagne, l'être espagnol qui va devenir un problème dans cette fin d'Espagne de 1898.
Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Unamuno ne renonce pas pour autant à penser l'essence de l'Espagne, l'histoire de l'Espagne. Il veut juste mettre l'accent sur le fait que l'histoire n'est pas forcément celle qui s'écrit.
Colette. Oui, et puis d'autre part, on pourrait dire qu'il a épousé l'histoire de l'Espagne durant toute sa vie, parce que on parle d'engagement, mais il y a un engagement qui est beaucoup plus concret, je dirais pragmatique et presque militant, que l'on peut tracer tout au long de sa vie. Par exemple, il est le premier intellectuel espagnol à adhérer au Parti socialiste espagnol.
Le premier professeur
d'université.
Ce qui fait scandale.
Oui, en 1894.
Sa mère le croit atteint d'une maladie, d'une maladie contagieuse.
Colette prenait la suite.
Oui, donc il écrit dans La lutte des classes, qui est le journal du Parti socialiste à Bilbao, souvent de façon anonyme, mais des articles extrêmement violents aussi, là où on peut dire qu'il s'engage, comment dire en espagnol, il se compromet Par ailleurs, il y a les procès plus,
Pardon de t'interrompre pour illustrer la chose. Un jour, il écrit un article et comme c'est un article anonyme, on pense que c'est le directeur de l'Alcha des Classes et il va finir en prison. Il faut le dire, le directeur. Pas Unamuno. De la même façon que quelques années plus tard, à Salamanque, il va être, si j'ose dire, persécuté par l'évêque, qui veut sa destitution. Destituer Unamuno de. Il est persécuté également par les intégristes catholiques, qui veulent sa destitution. Anachronisme, Unamuno est un rouge, dès la fin du 19e siècle. En tout cas, une certaine presse très conservatrice titre Les marxistes à l'université de Salamanque, à partir du moment où Unamuno envoie une lettre publique d'adhésion au Parti socialiste ouvrier espagnol à l'automne 1894. Chose qui a été occultée. Non, je termine, mais il faut le dire. Parce que Unamuno, c'est un iceberg. Ce qui m'intéresse, c'est la partie invisible qui contredit la partie visible, c'est-à-dire 40 ans d'exaltation franquiste du professeur de Salamanque.
Si tu le permets, j'ai d'autres exemples aussi pour montrer son engagement politique. Il y a les procès de Montjuïc à Barcelone, où des anarchistes ont été condamnés à mort, et il va le faire partie d'une série, c'est à peu près au moment de l'affaire Dreyfus, il va faire partie d'un groupe d'intellectuels qui vont tout faire pour éviter aussi, pour mettre en cause les tortures dont ils étaient victimes, et pour essayer de les sauver de la peine de mort. Ça, c'est vraiment un engagement qui peut contraster quand même avec les pages que vous avez lues. C'est ce qui est intéressant, ce sont ces deux aspects qui sont inséparables finalement.
Il est tout à fait insaisissable et en même temps, la manière dont il parle de l'essence de l'Espagne, on a entendu qu'il ne renonçait pas à la définir, mais alors du coup, en quoi peut consister une identité dès lors qu'elle n'est plus historique, dès lors qu'elle n'est pas celle qu'il se dit, dès lors qu'elle est si profonde qu'on se demande même si elle est accessible en fait. En fait, il y a une sorte de parallèle à faire entre la manière dont il tente de saisir ce peuple anonyme et la manière aussi dont on n'arrive pas lui-même à le faire rentrer dans une catégorie, et sûrement tant mieux. Mais du coup, comment le définir en fait ? Comment lui le prendre en fait ? De quelle manière le lire ?
Moi, je crois que c'est un homme qui a été obsédé par d'abord le désir d'éternité, non seulement pour lui, mais pour tous les hommes. De là, ses problèmes aussi religieux, hein, parce qu'il a été en crise pendant une grande partie de sa vie. Et un autre mot qui pourrait le qualifier pour moi aussi, c'est la recherche de la vérité. Le terme « verdad » apparaît sans arrêt, hein, jusqu'à la fin de ses jours, dans ses déclarations, dans ses écrits. Et le troisième terme aussi, c'est le terme de « liberté ». Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a un engagement quelquefois collectif, mais il y a la recherche de sa propre identité. Et d'ailleurs, on a souvent taxé Unamuno d'individualiste, et même d'égolâtre ou d'égocentriste. Mais je pense qu'à partir de cette recherche, il peut finalement aller un peu plus loin et cette recherche peut découler sur une préoccupation pour ceux qui l'entourent. Mais c'est lui le centre.
Le centre.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pueden bombas rumba la rumba la rumba la, pero nada pueden bombas rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Vous êtes sur France Culture, il est 10h30 et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance où nous parlons toute cette semaine de philosophie espagnole. Et aujourd'hui, pour ce troisième moment, c'est Miguel de Unamuno que nous découvrons, philosophe des contradictions et du sentiment tragique de la vie, il faudra qu'on en parle, en compagnie de Colette Rabaté, maître de conférence HDR honoraire à l'université François Rabelais de Tours et Jean-Claude Rabaté, professeur émérite à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, auteurs tous les deux de Miguel de Unamuno, une biographie qu'on trouve aux éditions Taurus en espagnol.
Le jour de la fête de la race, à Salamanque, dans le grand amphithéâtre de l'université, le général franquiste Milan Astray, mutilé de guerre, injurie la Catalogne et le Pays basque, tandis que ses partisans hurlent « Vive la mort !» Unamuno se lève lentement et dit
« Il y a des circonstances où se taire est mentir. Je viens d'entendre un cri morbide et dénué de sens. Vive la mort !» Ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Milan Astray est un infirme. Ce n'est pas discourtois, Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Je souffre à la pensée que le général Milan Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie de masse. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il ne vous en faut. Mais vous ne convaincrez pas, car pour convaincre, il faudrait que vous persuadiez. Or, pour persuader, il vous faudrait avoir ce qui vous manque, la raison et le droit dans la lutte. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé.
C'est donc le discours de Miguel de Unamuno qu'on a entendu, repris dans un documentaire par Frédéric Rossif. Ça n'est pas la voix de Miguel de Unamuno, c'est un comédien qui l'interprète. Donc je rappelle les faits. Le 12 octobre 1936, alors que la guerre civile d'Espagne s'est soldée par la victoire des fascistes, s'organise à l'université de Salamanque, où Miguel de Unamuno est recteur, une journée de la race espagnole pour commémorer la découverte de l'Amérique. Il est donc obligé d'y assister. Et face à ce cri qu'il entend « Vive la mort », il prend la parole et il dit ceci: « Vous vaincrez parce que vous avez le plus de force, mais vous ne convaincrez pas. » Alors on a vu que les rapports de Miguel de Unamuno à la politique étaient plus que compliqués. C'est une forme de refus de tout, d'engagement toujours suivi, poursuivi par un retrait. Par cette manière de prendre la parole, il fait néanmoins, il manifeste déjà quelque chose de plus positif qu'une simple négation. Jean-Claude Rabaté.
Oui.
Ou Colette Rabaté. Colette.
Comme le dit mon mari, il faut toujours contextualiser et repartir des faits. Miguel de Unamuno est exilé en France pendant presque 6 ans, entre 1924 et 1930, contre la monarchie et contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dictature du général Primo de Rivera. Quand il revient en Espagne, il a vraiment une aura. C'est l'intellectuel, on pense même à lui comme président de la République, puisqu'il va y avoir une seconde République, mais en 31. Et dans un premier temps, il est député de la République, il adhère aux idées de cette République, mais très rapidement, encore une fois, il s'écarte de cette République, des républicains, parce qu'il considère qu'il y a trop de violences, en particulier des violences contre l'Église. Et puis, comme il le disait d'ailleurs lui-même, qu'il ne pouvait pas être comme un insecte, vous voyez, qu'on fixe dans une petite caisse ou une petite, parce qu'il ne veut pas être classé. On l'a déjà dit plusieurs fois. Et il s'écarte donc de ces républicains. Il reprend ses distances jusqu'au coup d'État de 1936. Que se passe-t-il en juillet 1936? Il entend le pronunciamiento, hein, le coup d'État des militaires, à la tête desquels était le général Franco. Et très curieusement, par rapport à toutes ces idées, même de vieux libéral du 19e siècle, il adhère au mouvement. Ce qui est contraire à toutes les idées qu'il a émise avant, mais il est encore au 19e siècle, comme le disait mon mari, pense que c'est un pronunciamiento militaire parce qu'au 19e siècle, les coups d'État militaires étaient très souvent libéraux et non pas, hein, comme on pourrait penser en Amérique latine, par exemple, hein, si on a cette comparaison. Donc, il adhère dans un premier temps, Ce qui provoque bien sûr le scandale en Espagne, parce qu'on ne comprend pas ces prises de position.
L'Espagne républicaine.
Espagne républicaine, bien sûr. Et il est à la Salamanque. Hein, Salamanque était devenue la capitale du mouvement qu'on a appelé Nacional o Nacionalista. Et c'est un homme qui, il faut dire aussi, qui commence à être âgé. Il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Il a sans doute perdu des repères aussi politiques. Bon, ce n'est pas pour l'excuser, mais... Donc, il est d'ailleurs bien sûr récupéré tout de suite par le régime, enfin par le camp national, parce qu'on ne sait pas non plus, il faut toujours penser qu'on ne sait pas ce que va devenir Francisco Franco, on ne sait pas qu'il va y avoir une dictature. Hein.
Oui.
Donc, il faut rester et, sur les événements présents. Et finalement, il va d'ailleurs être destitué de son poste de recteur par les Républicains, mais rétabli par Franco. Bon, toute une série de choses. Donc, il est récupéré par aussi par le camp national et fasciste jusqu'au 12 octobre.
Donc 1936, le discours qu'on entend.
Voilà le discours où il est présent à ce discours puisqu'il est redevenu recteur de l'université de Salamanque, nommé par Franco.
Mais il y a tout à fait un paradoxe, en fait, à dire, à penser, à avoir cet engagement politique, en fait, qui est d'une certaine manière voué à la solitude. Miguel de Unamuno est récupéré, mais il ne le veut pas.
Mais encore une fois.
Il ne pense pas à une forme de communauté parce qu'en fait, il est toujours en retrait.
Oui.
Il y a quelque chose de proprement tragique, et je dis ça à dessein, tragique,
sûr,
complètement à dessein.
Mais il disait d'ailleurs qu'il ne s'était jamais présenté, mais qu'on le présentait aux élections. Et c'est son défaut peut-être aussi, c'est vrai, ce fait de toujours vouloir être hors du commun, hors des autres. Et c'est pour ça, je vous dis qu'on l'a traité aussi d'égocentrique. Hein. Bon, ce 12 juillet, donc...
12 octobre.
Non, 12 octobre, pardon. Ce 12 octobre, c'est toi qui me trouble. Ce 12 octobre, là, effectivement, alors, il ne lit pas un discours. Hein. Ça, et tout ce qui a été dit, n'est pas... on a fait des recherches, aucun discours et aucun enregistrement, et pourtant il a été enregistré, il était diffusé dans Salamanque, on n'a trouvé aucune trace, et même dans l'Espagne entière, rien. Ce que l'on a retrouvé, qui est très émouvant, et qui se trouve à la Casa Unamuno, la maison Unamuno à Salamanque, c'est une enveloppe sur laquelle il a écrit, griffonné, et on reconnaît très bien son écriture, des mots pendant que le général Millán Astray s'exprimait, et avant aussi...
Bon, alors là, je t'interromps, pardonne-moi, parce que j'en ai assez depuis l'histoire de l'Espagne de Hugues Thomas, depuis 1963. On dit que le général Millán Astray a prononcé un discours.
Oui.
C'est faux.
Enfin, oui,
le général Astray n'a jamais prononcé de discours.
Oui,
d'ailleurs, dans sa version espagnole de la guerre d'Espagne, Hugues Thomas attribue ce discours qu'il avait attribué à Millán Astray, ce discours-là a été prononcé par Rodrigo Maldonado, collègue de droit de l'université de Salamanque, un discours phalangiste, très militaire, dans lequel il affirme que le Pays Basque et la Catalogne sont deux cancers dans le corps de la nation qu'il faut extirper. Parole, effectivement, qu'un Millán Astray, fondateur de la Légion étrangère, aurait pu prononcer. Millán Astray ne prononce aucun discours.
Oui.
Comment pouvons-nous le savoir ? Suffit de feuilleter la presse de Salamanque le lendemain, autant les quelques paroles de Unamuno auraient été censurées, autant les 4-5 discours de ce 12 octobre vers midi 13h se retrouvent intégralement. Donc, Millán Astray ne prononce aucun discours. Ce film Mourir à Madrid, je me souviens de l'année 63 ou 64.
C'est le documentaire de Frédéric Rossif, dont on a entendu un
extrait. Les jeunes espagnols, immigrés espagnols, sortaient en pleurant. C'est un film extrêmement poignant, un film qui fonctionne sur l'émotion qui mêle la vérité et qui mêle aussi la fiction. L'auteur est Madeleine Chapsal, est avant tout une romancière. Quand Franco dit « Je ferai, s'il le faut, fusiller la moitié de l'Espagne », ces mots sont exacts. Quand Antoine de Saint-Exupéry, correspondant de Paris Soir, écrit « Ici, en Espagne », et c'est ce qui se produit à Salamanque durant cet été 1936, on fusille comme on déboise. Ces termes sont exacts. Et Unamuno est un solitaire maintenant, encore plus le 13 octobre, parce que là, il va être véritablement isolé, confiné, surveillé dans sa maison, destitué comme conseiller municipal, destitué comme recteur, il se retrouve seul. Et véritablement, Miljan Astray, en revanche, ce que va crier Miljan Astray plusieurs fois, voilà, c'est ce cri, et c'est le cri de la Légion étrangère, ouais, vive la mort. Quelques jours avant, il y a eu un grand meeting à Salamanque où toute une ville, enfin ceux qui étaient présents, ont crié vive la mort. Mais il dit vive la mort, il s'exclame, c'est vrai, mais il crie aussi à bas les intellectuels. Peymann, écrivain falangiste de l'époque,
les mauvais intellectuels.
À bas les mauvais intellectuels. Alors moi, je me suis interrogé, mais pourquoi cette colère de Miguel Unamuno? Et j'ai confronté tous les 12 octobre précédents dans lesquels intervenait Unamuno, ou écrivait des articles sur cette fête de l'hispanité, qui est aussi la fête de la race. Eh bien, Unamuno avait l'habitude de terminer par l'éloge d'un ennemi de l'Espagne, José Rizal, indépendantiste philippin. Et sur cette enveloppe dont parlait à juste titre Colette,
je ne vais pas laisser terminer,
se trouve le mot de Rizal. Donc, à mon avis, à la fin de ce bref discours, Unamuno a évoqué Rizal, qui incarnait aussi bien l'Espagne que le général Franco. Hein, et c'est ce mot-là, l'évocation de cet indépendantiste qui a provoqué la colère de Miljan Astray. Pourquoi? Parce que Miljan Astray, à l'âge de 17 ans, guerroyait aux Philippines contre José Rizal.
Oui, cette fameuse enveloppe, quand même, c'est le témoin qui peut permettre de reconstruire, mais très mal, son discours, vaincre, convaincre. Il avait l'habitude, quand il écoutait des discours ou qu'il entendait parler, il prenait des mots et ensuite il improvisait. Donc, vaincre, convaincre, concave, convexe. On le retrouve dans beaucoup des cris de l'époque. Et justement, aussi Rizal, le terme de Rizal, qui d'ailleurs avait été effacé.
Gommé pendant 40 ans.
Oui, on l'a retrouvé, on a retrouvé l'original. Donc, on peut essayer de reconstruire un discours. Ce qui est sûr, c'est bien sûr, c'est un discours contre.
Attribué. Hein.
On peut essayer de reconstituer, mais c'est un discours qui est nettement contre les nationalistes et contre Franco.
Il y a néanmoins quelque chose de très intéressant dans ce contre, dans ces discours contre, dans cette position contre, et ce n'est pas tant pour lui donner une forme de positivité à tout prix, une forme de plénitude, c'est aussi, Miguel de Unamuno a développé cette idée de sentiment tragique de la vie. Il a aussi commenté, fait une lecture chapitre par chapitre du Don Quichotte de Cervantes, et les deux vont ensemble parce que cette inquiétude, le fait d'être contre, en retrait, le fait d'être sans cesse en éveil et jamais engagé dans quelque chose, mais plutôt contre quelque chose, le maintenait éveillé, non pas dans un sens, non pas dans une idée, non pas dans un système, non pas dans un parti, mais le maintenait éveillé. Finalement, on retrouve ici cette idée de Don Quichotte qui s'engage dans un voyage, mais un voyage sans but et qui va combattre des moulins à vent. Il y a un parallèle incroyable à faire entre Miguel de Unamuno et Don Quichotte.
Ah ben, d'ailleurs, il prétend qu'il préfère le personnage du Don Quichotte à l'auteur, que le personnage est bien supérieur à Cervantes.
Il méprise Cervantes et encore plus les érudits.
Oui, les érudits. Et ce quichotisme dont il parle, pour lui, c'est l'exaltation, c'est une religion. Et toujours fondée sur l'éthique. Hein, les prises de position de Miguel de Unamuno sont toujours fondées aussi sur la morale. Ça vient aussi de son passé, de chrétiens aussi qui restent. Je pense que peut-être pour la fin, on pourrait lire...
Alors, on a encore un peu de temps. On peut encore rester sur cette idée de foi, parce qu'il a eu une crise...
Il a eu des crises, on pourrait dire, pratiquement toute sa vie. La première crise, c'est en 1897, même avant, en 1890, lorsqu'il est étudiant à Madrid, et il cesse d'aller à la messe, alors qu'il avait une mère extrêmement croyante et qu'il avait été... Et ensuite, la deuxième grande crise religieuse. Donc, il cesse d'aller à la messe. En 97, au contraire, il se rapproche de la religion, mais d'une foi qui n'est pas la foi catholique. Il rejette le catholicisme. Et on a souvent dit qu'au début du 19e siècle, il était beaucoup plus près des protestants que des catholiques. Il disait d'ailleurs, il faut
décatholiser
l'Espagne. pour la re-christianiser.
Mais en fait, il disait
catholicisme christianisme.
Il disait qu'il fallait aussi croire en fait que nous créions qu'on crée Dieu en fait par notre croyance, c'est-à-dire que il avait cessé de croire en quelque chose mais il ne continuait pas à croire. C'est aussi ce mouvement-là tout à fait paradoxal qui souligne peut-être toute la spécificité de sa pensée.
Au lieu de paradoxe, contradiction, Unamuno parlait de cri de passion, qu'il était un passionnal. Et en réalité, ce que vous dites là alimente son écriture. Colette dit il était en crise. Moi, je rajouterais il était en crise du berceau jusqu'au cercueil. Il était en crise toute sa vie, Miguel Unamuno. Alors, certains collègues ont développé, ont écrit des livres autour de la crise de 1897. Mais moi, journal intime, mais des journaux intimes, il en a écrit toute sa vie, jusqu'à l'automne 1936. Vous avez évoqué sa solitude. Sa solitude, il l'a retranscrit dans un journal intime que personne ne connaît, qui a été édité en 1991 et qui fait froid dans le dos.
Et ça, c'est ce qu'il appelle le sentiment tragique de la vie, non pas la fatalité qui s'abat sur nous, puisque là, c'est volontairement en fait que l'on croit non pas en quelque chose, mais que l'on continue à croire, non pas non plus la tragédie, le dilemme dans le théâtre. C'est qu'est-ce qu'il entend par tragédie en
tragédie,
fait
tragédie, vous n'avez pas utilisé plus le mot de agonie.
Mais aussi
alors, comme
agonie.
Comme il était au départ professeur de grec. Et qui retournait toujours au sens étymologique, agonia, agonie,
combat.
Lutte, brega, combat permanent entre la foi et la raison, combat permanent entre...
Le sensible et la raison
La vie est faite de lutte, il la souhaite. Il y a une métaphore qu'on n'a pas développée, mais qu'on retrouve dans son œuvre. Alors là, tout au long de son œuvre, il veut une guerre civile, Unamuno. Il veut une guerre civile des esprits. La guerre civile, il l'aura, mais malheureusement, ce sera une autre forme de guerre civile qu'il ne comprendra pas.
Et qu'il appelle autant... guerre incivile,
d'ailleurs. Oui, qu'il va appeler d'ailleurs guerre incivile. Colette, c'est bien. Et notamment dans Pasen la Guerra, il est né au milieu d'une guerre civile, celle de son enfance, qu'il idéalise complètement. Et en 1936, il se trompe. Il fait une erreur, comme d'autres. Il pense que cette guerre-là, ma foi, d'ailleurs, il y a le drapeau républicain qui flotte encore pour quelques semaines à côté de moi. Il y a des moments d'hésitation. Il pense que c'est un pronunciamiento populaire, alors qu'il s'agit d'un coup d'État militaire, d'un coup d'État fasciste. Mais Unamuno va rectifier, si j'ose dire le tir, par una quijotada en 1936, seul contre tous. Effectivement, il ne peut pas rester silencieux, il se lève et prononce ces mots admirables qui ont fait le tour du monde.
Et en 1936, c'est là aussi où il va écrire cette dernière lettre, qui est une sorte de dont vous vouliez parler,
dernières lettres. Alors, c'est une lettre qu'il envoie au journal ABC, qui est un journal conservateur de Séville. Et il envoie cette lettre au directeur pour essayer de justifier ses prises de position. Bon, j'ai simplement traduit quelques passages. Il est répugnant d'être aujourd'hui un Espagnol exilé en Espagne, puisqu'il se sent exilé dans sa propre ville. Ce n'est pas le mouvement, c'est le mouvement national, le pronunciamiento, auquel moi, pauvre candide, j'ai adhéré, croyant que le général Franco était différent de ce qu'il est. Il s'est trompé et il nous a trompés. Je vous écris cette lettre de ma maison où l'on m'emprisonne de façon déguisée. On me retient en otage. Je ne sais ni pourquoi, ni pourquoi faire. Mais si l'on doit m'assassiner comme d'autres, ce sera ici, chez moi. Donc, cette lettre, je pense qu'elle n'a pas été publiée d'ailleurs par le journal et on l'a retrouvée.
Cette lettre est du 11 décembre 1936. Unamuno mourra le dernier jour du mois de décembre, le 31 décembre 1936, d'un arrêt cardiaque à 16h30. Unamuno était un être fait de mots. Le 12 octobre, Colette, le 12 octobre 1936, vers 13h de l'après-midi, il perd la parole et il meurt. Mais je rajouterai, il ne meurt pas. Il entre en agonie parce qu'il va écrire. Il va écrire des lettres. Il va écrire des dizaines de lettres. J'en suis persuadé. La dernière que j'ai aperçue, c'est sur eBay, une vente aux enchères. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer encore la lettre qui est également du mois de décembre 1936 adressée à une Italienne où Miguel Unamuno bat sa culpe, reconnaît ses erreurs. On ne peut lire que quelques lettres.
Allez-y. Vous voulez en lire un peu?
Non, malheureusement, cette lettre, on ne peut pas y avoir accès. Elle a été vendue récemment en Espagne. Je cherche à qui elle a été vendue. Je n'arrive pas à retrouver. Mais à mon avis, cette lettre-là, d'après ce que j'ai pu simplement lire, trois ou quatre lignes, à la fin, Unamuno dit « Jamais, on ne m'obligera à faire un salut, la main levée, le salut romain. Jamais on ne me fera défiler le poing fermé, tous unis comme les doigts de la main, symbole du Front populaire en Espagne en 1936. Mon geste préféré, c'est celui de Fray Luis de León. Et devant l'université de Salamanque, chaque matin, Unamuno passait devant la statue de Fray Luis de León, qui lève légèrement la main en un geste de paix, ce grand humanisme de l'Espagne. Voilà le modèle d'Unamuno. Le seul problème, c'est que ni les uns, ni los unos, ni les fascistes, ni les communistes, Unamuno cherche une troisième voie, une troisième Espagne. Mais cette troisième Espagne ne verra jamais le jour. C'est la faillite et c'est la fin de ce vieux libéral que fut Unamuno.
Colette, un dernier mot ?
Non, je crois que mon mari a tout dit là sur...
Tout dit jamais.
Non, mais la conclusion, je crois qu'elle résume bien. Oui, c'est vrai que c'est un personnage très complexe, mais aussi très attachant. Ça, je dois dire,
il faut
beaucoup d'empathie.
Il faut faire l'effort,
parce que c'est difficile.
C'est difficile.
Merci à vous, on va faire l'effort grâce à vous.
Merci.
En la fragua con yuca y martillo y en mi voz yo llevo un pueblo de gente andando por senda frío
à vous deux, Colette et Jean-Claude Rabaté. C'est un plaisir de vous entendre parler de Miguel de Unamuno et de vous contredire mutuellement ou de vous interrompre. Et alors, je rappelle que vous avez écrit une biographie ensemble sur Miguel de Unamuno. Alors hélas, elle est uniquement disponible en espagnol aux éditions Taurus, mais on espère qu'elle va bientôt être traduite en français. Et puis, de Miguel de Unamuno, eh bien, on peut lire Le sentiment tragique de la vie, c'est disponible en folio essai. Et quant aux autres textes dont on a pu parler, L'essence de l'Espagne ou encore La vie de Don Quichotte, eh bien, l'appel est aussi lancé finalement pour qu'il soit édité en français. Quant à nous, eh bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons non pas demain, car demain, en place et lieu des nouveaux chemins, vous aurez le plaisir d'écouter la messe en ce jeudi d'Ascension. Mais on se retrouvera donc vendredi pour les chemins du vendredi, en compagnie du phénoménologue Renaud Barbaras, dont la métaphysique du sentiment vient de paraître aux éditions du Cerf. Et quant à vous, eh bien, pour écouter cette émission et celle sur la philosophie espagnole, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales des émissions. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.